Bah Peter, tu vas au Fige en train comme d'hab cette année?
Eh ben non, cette année je vais sûrement y aller en blablacar là. Je me suis mis quelques alertes là.
Ah ok. Bon bah donc on sera pas dans le même train.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois, Cyrus, je me souviens.
Ouais, c'est vrai.
Salut les gars!
Salut Kurt.
Salut Kurt. Qu'est-ce que t'as fait de beau toi récemment?
Oh, je me suis retrouvé embarqué dans une affaire. J'ai été donner un coup de main au docteur Mops pour ranger son grenier. Bon, il y a des trucs pas terribles, mais il y a aussi des pépites. Et ce qui est très sympa, c'est qu'après, on peut les tester.
Ah, et t'as joué à quoi?
J'ai joué à un jeu qui n'est pas sorti en France qui s'appelle Der Untergang von Pompeji.
Oula.
Ce qui se traduirait par la chute de Pompéi. Un jeu de l'ami Klaus, l'auteur de Carcassonne.
Oh, intéressant.
D'accord, ouais.
Ouais. Alors, c'est pas récent, c'est un jeu qui est sorti en Allemagne en 2004. Et le principe, c'est surprenant parce que c'est un jeu qui se joue en deux phases. Une première phase où Pompéi est une ville, à l'époque, avant Jésus-Christ, une ville attractive, commerçante, etc., où chacun veut venir tenter ch sa chance. Donc les joueurs, chacun un petit pool de pions qui va représenter ses habitants qu'il représente devant lui. On a des cartes en main. Et on va jouer une carte. Sur la carte, il y a un numéro et une couleur. Ça va représenter les bâtiments qui sont dans la ville. Donc on va poser un cube de sa couleur dans le bâtiment correspondant. Bon, pas très très excitant jusque-là. Donc les joueurs, etc., chacun joue avec un petit effet boule de neige où quand on joue dans un bâtiment où il y a déjà du monde, on peut rajouter d'autres pions ailleurs dans d'autres bâtiments, soit dans les bâtiments neutres, soit dans un bâtiment de la même couleur, sans faire effet boule de neige. Et donc très très vite, la ville va se remplir, va se remplir, va se remplir très très vite. Après, une fois que la ville est pleine,
Volcan.
Avant le volcan, parce que justement, le volcan, il est là, il a un rôle très important dans le jeu, vous
Ah,
allez
bah
voir.
oui.
Donc après, il y a des petites cartes qui permettent de dégager les pions des adversaires lors de la première phase. C'est assez annexe, mais ça fait toujours plaisir de regarder l'adversaire dans les yeux et de lui dégager son cube. Va arriver une première carte éruption. Là, on la prend, on la remet dans le paquet plus bas, on remélange, et voilà. Donc on continue, on remplit la ville, et on remplit la ville. Arrive la deuxième carte éruption. Et là, sauf qui peut.
Ouais, le premier c'était juste un coup de semonce, quoi, c'est ça? Mais
C'était un
là.
coup de semonce, c'était pour dire aux joueurs, bon, préparez-vous, ça arrive. Et donc là-bas, justement, le volcan entre en éruption, le Vésuve. Et façon, je ne sais pas si vous avez joué à un excellent jeu enfant qui s'appelle SOS Dino, où la lave va se propager à partir de différents points. Et bah donc là, ça va être la même chose. On arrête avec les cartes qu'on avait en main. On rajoute plus de jetons. Là, en fait, on va tirer une tuile. On est dans un jeu de l'auteur de Carcassonne quand même, faut pas l'oublier. Et les
Et on va
tuiles.
les poser.
Et on va les poser. Et donc la lave a plusieurs points de départ sur le plateau. Il y en a 5 ou 6 de mémoire. Et donc va falloir poursuivre. Donc telle couleur, la lave elle va poursuivre à partir de tel endroit. Et à chaque fois, il faudra que ce soit adjacent.
Ça descend pas forcément du volcan alors.
Non, non, en fait, elle arrive par les bords de la cité. La lave ou à l'intérieur aussi, elle arrive de partout. En fait, c'est vraiment t'as plus
Ouais,
envie d'y
d'accord,
être.
ça
Et
pop de
donc à
partout.
partir, ça pop de partout. À ton tour, dans la deuxième phase, tu prends une tuile, tu la poses et tu déplaces deux de tes cubes. Et c'est là que c'est intéressant parce que les cubes, tu peux les déplacer d'autant de cases qu'il y a de monde dans ta case de départ.
Ah oui, d'accord.
Donc il y en a qui vont aller très très vite, mais c'est-à-dire que ceux que tu restes derrière, bon si c'est pas tes copains, c'est pas grave que tu les laisses derrière, ils en seront moins vite, mais s'ils sont aussi de ta couleur, tu l'abandonnes derrière. Pour sauver tes cubes, il faut juste que tu leur fasses franchir les portes de la ville. Un cube sauvé égale un point de marqué.
D'accord, ouais.
Et puis si la lave recouvre des cubes de d'autres joueurs ou les tiens, malheureusement des fois t'as pas le choix, tu les prends, tu les jettes dans le volcan, physiquement, le volcan il est présent sur le plateau, c'est un cône en carton que tu montes au début de la
Ah
partie,
oui,
et
carrément.
vraiment, ah ouais, physiquement le plateau il est plat, avec
Excellent.
ce cône dans un coin qui fait 10 cm de haut,
Incroyable.
très sympa.
2004 et
Génial.
déjà de la présence sur table. La mise
Exactement,
en
et tu
scène.
te souviens Cyrus?
Ouais.
Ouais, et ben c'est ça justement, Cyrus, quand on parlait de mise en scène la dernière fois, là on est en plein dedans. Est-ce que c'est pas génial de prendre le cube de l'adversaire, de le regarder dans les yeux et de jeter ses habitants
Bah
physiquement dans
si.
le cône du volcan
Ouais.
Ah! Ah! Voilà.
Alors le top, ça serait de
Le
mettre une petite
bruitage.
bougie, tu sais, tu mets une petite bougie au fond du volcan, ça serait top, ça.
Ouais, ça
Ouais,
peut. Ou une
faut.
petite bougie électronique, tu sais, qui n'a pas de flamme, ça
Oui,
pourrait être
oui.
sympa, effectivement. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Et puis bon, la partie s'arrête soit quand tout le monde s'est sauvé, soit quand il n'y a plus personne à sauver.
D'accord, ouais.
Ok.
Et du coup, c'est quand même un peu abstrait, non, du coup, comme jeu, au final, non? Enfin,
non.
Le déplacement en fonction du nombre de Gugus qui sont placés, ou je sais pas quoi, non? Ça part un petit côté
c'est
un
un
peu...
très, très léger.
Ouais, non?
Un très léger sentiment abstrait, mais il y a tellement de hasard qui intervient entre les cartes que t'as en main au début, les tuiles que tu tires en deuxième phase, etc. Alors, je peux t'accorder le sentiment abstrait sur le déplacement des personnages, oui, des cubes.
Non, mais c'est peut-être, c'est peut-être juste une fausse impression comme ça à l'explication. J'y ai jamais joué, donc je peux pas.
non, mais je suis d'accord. Je te rejoins où il y a certains jeux, oui, il y a certains jeux. Je vois tout à fait de quoi tu parles, où tu te déplaces de la hauteur de ta pile, de pion, ce genre de choses. Oui, on pourrait rejoindre à ce niveau-là, mais c'est tout.
Et du coup, t'as plutôt intérêt à mettre tes pions proches des portes de la ville, du coup, pour te sauver rapidement. Quel est l'intérêt
proche des portes de la ville au début, oui, mais
d'aller plus loin, du coup.
Bah parce que t'as pas le choix.
Oui, y a
en
pas
fait,
assez de place.
Tu poses en fonction des cartes
ah,
que t'as
oui.
dans la main. Et puis déjà, il n'y a pas assez de place, tu
ah
poses
oui.
où tu peux. Et puis si ta carte, la carte, elle a un numéro et un chiffre, ça correspond aux couleurs et au numéro des bâtiments. Oui. Si
un
t'as pas les bonnes cartes,
chiffre,
bah, tu poses là où tu peux.
C'est... Ah oui, donc il y a quand même un peu de hasard.
Un numéro et un chiffre, absolument. Ouais. Pardon, les cartes ont une couleur et un numéro.
D'accord.
Donc tu poses, bah, des fois, si t'as pas le bon tirage, tu poses là où tu peux.
Ouais.
Et puis voilà, et puis si ça se trouve, est-ce que bah beaucoup ce serait pas mieux, parce que je te rappelle que tu reposes en fonction, tu peux rajouter des cubes en fonction de si tu te poses là où il y avait déjà du monde, donc ça te permet d'en mettre plus. Alors est-ce qu'il y a pas une tentative de bon, je vais perdre beaucoup de monde mais je vais marquer beaucoup de points.
Ouais.
Sauf que attention, quelqu'un peut me demander comment on départage l'égalité à la fin.
Oh dis donc, mais du coup comment tu départages l'égalité à la fin?
Celui qu'on a moins dans le volcan.
Celui qu'on a le moins dans le volcan, exactement.
Ah, oui.
Ah, ceux qui, en fait, les personnages qui sont cendrés au milieu du plateau, ils comptent un peu des points, c'est ça.
Potentiellement, ils peuvent faire le départage si on est égalité du nombre de citoyens sauvés.
Et du coup, c'est le joueur lui-même qui met ses pions dans le volcan, ou c'est un autre joueur qui met les pions de l'autre dans le volcan? Comment ça se passe?
Bah, en fait, t'évites, vu que c'est toi qui décides où tu rajoutes la lave, t'évites de venir te cramer tes propres citoyens. T'essaies de faire dévier la lave, soit pour bloquer la porte d'un autre, soit pour lui foutre directement
ouais,
sur ses citoyens.
Ça, je comprends bien, mais
des fois, t'as
du
pas
coup,
le
c'est
choix.
Toi
bah,
qui
en fait...
prends les pions, et en plus, tu te fais un malin plaisir de prendre les pions de l'adversaire et de les foutre dans le volcan.
Quand c'est ton tour, tu mets les victimes que t'as, tes propres victimes,
ah,
tu les mets dans le
yes.
volcan. Oui, effectivement, c'est
très
comme
bien.
Ça que ça marche. Ouais. Voilà, donc non, bah pour un jeu de donc Klaus Jürgen Wrede, c'est un jeu de 2004 et bizarrement, il a encore une petite vie ce jeu-là parce que je regardais, il a eu une édition espagnole en 2017.
Ouais, ça commence à dater
quoi,
2017. Alors
ouais.
Ça fait bientôt 10 ans, mais
Ça fait bientôt 10 ans, mais pour dire, entre deux, il y a eu en allemand en 2004, en anglais en 2006, en anglais en 2013 et une édition espagnole en 2017.
Ouais.
Les mystères des éditions de jeux.
Bon, après, il n'y a pas de texte, c'est juste la règle qui est traduite. Là.
Après, il n'y a aucun texte. Si on se procure une boîte, on peut y jouer, une fois passées les règles, on peut y jouer, il n'y a plus aucun texte nulle part. Non.
Et il est toujours en vente ce jeu? Tu le trouves toujours Tu n'as pas regardé?
Tu le trouves toujours dans le grenier du Dr Mops.
Oui, mais d'accord. Bien sûr.
Je sais pas.
Ouais, t'as pas regardé.
Après, je me suis pas renseigné, je sais pas.
Ouais,
t'as peut-être moyen de le trouver sur les stands d'occasion, peut-être à Essen. Encore, ce qu'on disait, à Essen, il n'y a plus tant de stands d'occasion que ça. Alors, je sais pas, faut faire la mat trade, peut-être. Mais
voilà,
ouais, effectivement, il n'y a pas eu d'édition française déjà, donc ça limite un peu le marché. Ouais. Après, c'était Mayfair, joueur en anglais. Amigo, Mayfair, donc c'est quand même des éditeurs qui ont un tirage pas négligeable.
Oui.
Donc, il doit y avoir quelques exemplaires qui se baladent à gauche, à droite.
Je pense que si on le veut vraiment, il doit se trouver, oui, effectivement.
Bon, expérience plutôt sympa, alors, du coup.
Très plaisant, très plaisant. Je, dès que ce cher Dr Mobs veut en faire une partie, je serai partant. Il n'y a pas de. Ce sera avec plaisir. Alors, et toi, Peter, t'as joué à quoi?
Eh ben, moi, j'ai joué à Not Alone. Donc, c'est pas un jeu tout jeune non plus.
Ah.
Hein, c'est un jeu de 2016. Et il avait déjà été chroniqué d'ailleurs dans Proxy Jeux. J'ai vu par BenoFX qu'on a dit du bien dans les jeux du mois. Et Cyrus, t'étais avec lui. Tu l'accompagnais.
Ouais.
Et t'étais sur Magic Maze à l'époque.
Ça date, ouais.
Il a pas fait l'objet d'un autour du jeu il y a pas longtemps, celui-là?
Ah ouais? Ah, je me souviens même pas.
Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, très bien.
Ah, d'accord.
Non, mais il n'y a pas de souci, vas-y.
J'allais dire, c'est à cause de ça, grâce ou à cause, je ne sais pas, tu vas nous dire, de ça que tu as joué, non ? Du coup, non.
Eh ben, alors peut-être, mais alors c'est dans mon inconscient, mais je l'avais en tête, ce jeu. Je le voyais, alors je voyais la boîte souvent, et puis dans le bar à jeux où je vais, souvent, on nous le proposait parce que c'est un jeu qui est pas mal pour jouer à plusieurs, hein. Tu joues jusqu'à 7, ouais, hein, de 2 à 7. C'est un jeu asymétrique en 1 contre tous, donc, et puis la boîte est pas très grosse, c'est que des cartes dedans, donc pour un bar à jeu, c'est du matériel assez facile à proposer. C'est pas très long non plus par partie, puis généralement ça met une sacrée ambiance, et moi c'est ce que je retiens dans ce jeu en tout cas, c'est l'ambiance que ça crée, qui est pas du tout une ambiance type party game, mais plutôt une ambiance un peu stressante, je dirais, et c'est ça qui est vraiment moi m'a bouleversé dans ce jeu-là. J'en ai même fait des cauchemars la nuit, hein. C'est peut-être la première fois qu'un jeu de société me fait ça. Ah ouais, franchement. Alors, c'est sûr que comme le thème du jeu, c'est une créature qu'on peut vraiment très facilement assimiler à un alien, à la créature alien de la licence Alien, hein, bien sûr, qui traque des naufragés d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé sur une planète. On a tout de suite les images des films, des séries, alors que ce soit Alien ou d'autres licences, hein, de trucs qui coursent des humains et qui veulent les bouffer. Hein. Donc forcément, t'as les images qui remontent. Hein. Donc oui, ça m'a clairement fait passer une nuit un peu bof. Voilà. Et puis il y a et puis en plus j'y ai joué le soir, donc juste avant de me coucher. Et il y a quand même un stress qui se dégage, hein, dans ta partie, parce que tu vas devoir faire des choix et t'as toujours peur d'être à l'endroit où la bête va se placer. C'est ça un peu le truc. Tu dois deviner là où la bête va se placer.
J'en conclus que tu jouais pas le chasseur.
Voilà, non, je ne jouais pas la créature.
Vraisemblablement pas.
Ouais, voilà. Donc j'aimerais bien avoir faire une partie d'ailleurs en jouant la créature, parce que ça doit être une vision complètement différente. Mais il n'empêche que ça doit être complètement très stressant aussi. Puis en plus, tu peux rien partager avec qui que ce soit. T'es tout seul et t'as presque le stress de laisser partir les naufragés qui se sont échoués sur la planète, puisque leur but c'est d'attendre les secours qui viennent les chercher pour pouvoir s'évader. Et la créature, elle doit pas les croquer, c'est pas écrit comme ça dans les règles, et nous, la personne qui nous les a expliqués était assez puriste des règles, donc il nous a dit non, la créature ne les bouffe pas, elle les assimile. Alors, vous comprenez ce que vous voulez de ça, mais pour moi, assimiler, elle les croque et puis elle les transforme en humus, voilà, c'est assimilé. Mais c'est la planète qui les assimile, voilà, c'est comme ça que c'est dit, mais il n'y a pas plus d'explication que ça.
Ça fait penser un peu à Avatar. Je sais pas si vous êtes allé voir le 3 là récemment.
Non.
C'est un peu cette.
Non.
Non.
Tu spoil
l'univers ou pas d'Avatar ?
Oui. J'ai vu les deux premiers moi. Mais
j'ai vu les deux premiers, mais sans plus.
Ouais. Ouais, même dans le 2, tu vois en fait la planète, il y a un espèce de comportement étrange de la planète. C'est comme si la planète entière était vivante et que tous les êtres vivants de la planète étaient en communication, tu vois.
Oui.
Donc moi, ça me fait vraiment penser à ça.
Ah oui.
Dans notre
lore. Ouais.
Et d'ailleurs, j'ai jamais vu la créature comme une entité, tu vois, enfin je la voyais pas comme un alien, tu vois, j'aurais plus comme l'entièreté finalement de la planète qui est un peu hostile et qui peut-être se matérialise par une forme, par quelque chose, tu vois, mais je vois pas comme comme une créature.
J'ai lu le lore quand même, vous me connaissez, donc j'ai quand même lu le lore, et dans le lore ils te disent que les naufragés, ils se réveillent, le capitaine hurle et ils voient une silhouette à côté du capitaine, donc il y a quand même une apparence, en tout cas dans le lore du jeu c'est ce qui est sous-entendu. Puis la boîte du jeu, c'est deux gros yeux qui te regardent avec une sorte de main avec une griffe là qui passe dessus, donc je pense que l'intention est quand même c'est écrit la créature, hein, de toute façon dans les règles aussi, et elle a des cartes track, donc c'est vraiment la créature qui traque les humains. C'est vraiment ça le principe du jeu. Okay. Quoi. Alors, un concept qui est très intéressant dans ce jeu, je trouve, c'est qu'on est libre totalement de parler. On peut parler entre nous. Par contre, donc les traqués peuvent parler entre eux. Par contre, on n'a rien le droit de cacher à la créature. La créature est obligée d'écouter, d'entendre, de comprendre tout ce qui se dit. Donc on peut pas chuchoter et tout ça. Donc on peut pas convenir d'une stratégie entre traqués. Moi j'y ai joué à 5, on était 4, hein. Donc on aimerait bien des fois à 4 se dire bah voilà, tu fais ça, moi je fais ça, tac tac tac, et comme ça la créature on va faire son affaire. Mais non, on peut pas discuter de ça. Donc quelque part on va essayer de communiquer d'une autre manière, peut-être en plaçant des cartes à certains endroits, en reprenant des cartes de sa défausse, en faisant certaines actions, en sous-entendant qu'on va peut-être aller là, mais on peut aussi bluffer. Parce que le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, tous les naufragés vont choisir un lieu sur lequel ils vont aller au prochain tour, parmi un certain nombre. Hein, en fait, ce sont des cartes. On choisit notre lieu face cachée, et on ne se le montre pas, et la créature, elle, va choisir aussi, alors là c'est pas face cachée parce que nous on n'a pas le droit de changer de carte entre temps, mais elle nous montre directement en posant un gros jeton bien menaçant avec une tête d'alien dessus sur quel lieu elle va aller et là où elle va bouffer les traqués si jamais il y en a. Et donc à ce moment-là, si la bête est sur notre lieu, bah, d'une part on peut pas utiliser le lieu et en plus la piste d'assimilation alors de la planète ou de la créature avance d'un cran, et si jamais cette piste d'assimilation arrive au bout de la rangée, c'est là où la créature gagne, alors que pour que les naufragés gagnent, il faut qu'ils aient passé suffisamment de tours sans se faire bouffer pour que les secours arrivent. Et le nombre de tours qu'il est nécessaire d'attendre est beaucoup plus long que le nombre de naufragés que la bête doit croquer pour gagner. Donc on sent dès le début que... Alors c'est asymétrique, mais c'est asymétrique aussi dans les conditions de victoire. Mais finalement, nous, c'était tendu jusqu'au bout. Donc j'étais effectivement du côté des naufragés, on a gagné, mais c'était serré. Donc, alors qu'au début de la partie, je me dis, mais non, mais c'est impossible, quoi. Nous, il faut qu'on fasse, je sais pas, 15 cases, alors que la créature en a 6 à faire. Mais finalement, non. On a étonnamment réussi à bluffer la créature, l'induire en erreur, ou voilà, elle a pensé qu'on allait là, on n'allait pas là. Donc,
vous avez eu du bol, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr, on a eu un peu de bol, quoi. Et...
Alors, quelle part de bluff vous avez utilisé ?
Ben, je sais même plus. En fait, c'était tout irrationnel. On essayait autant de bluffer que de dire la vérité des fois que ça en devenait... Mais même entre nous, en fait, on se bluffait entre nous. Alors, on dit, ah, mais je croyais que tu allais là. Ouais, mais non, ouais. En fait, j'ai dit que j'allais là, mais c'est pour que la bête y aille. Mais en fait, non, j'allais pas aller là. T'as pas vu, j'ai repris là la carte. Il y a deux tours, j'avais pris la carte lieu là de ma défausse où je l'avais achetée. Enfin, je l'avais découverte grâce à une action lieu. Donc forcément, j'allais y aller. Ah bah non, j'ai pas pensé. Et tout. Donc il y a un petit effet mémoire aussi, parce qu'on va pouvoir débloquer des nouveaux lieux au fur et à mesure de la partie, et donc il faut se souvenir de qui a débloqué quel lieu, parce qu'après les cartes sont cachées.
Ah oui.
Alors surtout quand on est la créature, je pense, parce que il faut se souvenir qu'un tel a débloqué tel lieu, donc il est susceptible d'y aller, parce que sinon si tu mets ta créature sur un lieu qui n'est pas débloqué, ça perd de son intérêt. Donc au début t'en as que 5 dispo, puis à la fin, si tu les as tous débloqués, il y en a 10 de disponibles. Il y a 5 lieux avancés qui permettent de faire des actions un peu plus puissantes que les 5 lieux de base, quoi.
Ah ouais, il n'y en a tant que ça, je ne me rappelais pas.
Donc la créature peut pas se dire « je vais viser un lieu au pif et statistiquement je risque de tomber sur quelqu'un ». Les chances sont quand même pas de pas en sa faveur. De
ouais,
viser
non,
un lieu,
alors
de
elle peut se dire ça au début, surtout s'il y a 6 traqués, parce que la probabilité qu'il y ait quelqu'un sur un lieu est quand même plus grande que s'il y a une seule personne de traqué. Mais il peut y avoir plusieurs traqués sur le même lieu, ça pose pas de problème. Alors la plupart des lieux ne sont pas activés plusieurs fois quand il y a plusieurs traqués, mais un traqué qui est sur le même lieu qu'un autre, en fait il va pouvoir piocher une carte en compensation. Il va pouvoir gagner une carte en compensation. Donc il y a quand même un intérêt à pas se faire bouffer par la bête, quoi.
Ouais, c'est quand même surtout ça, quoi. C'est surtout de pas se faire bouffer, quoi, l'intérêt.
Ouais, c'est ça. Mais la créature, elle a aussi des cartes et elle va pouvoir avoir des actions assez fortes pour vraiment modifier le cours de la partie. Par exemple, elle va poser son jeton sur un lieu, donc toi t'es là, t'es content, t'es pas sur le lieu là, tu dis ah ouais super, je vais pouvoir activer mon lieu, génial. Et puis là elle te sort une carte, alors ça s'appelle des cartes de track, qui dit que en fait la bête, si elle est sur un lieu, elle va attaquer les lieux adjacents, Et là, tu dis, oh merde, finalement, ça va tomber sur moi. Donc, ça rebat complètement le truc. Et de là, tu peux avoir un joueur qui sort aussi une carte action. Donc, pour les naufragés, c'est les cartes esquives. Et qui va contrecarrer l'action de la bête. Donc, tu as aussi un petit jeu à la carte, là, quoi, comme ça, avec des cartes actions et des éphémères. Hein, je crois que c'est en Magic, c'est ça, les éphémères que tu peux balancer comme ça. Voilà. Et ça donne un petit côté très rythmé au cours d'une phase de jeu, où tu peux tac 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 placer ce genre de cartes. Bon, t'en as pas beaucoup. La créature peut en faire une à son tour maximum, quelle que soit la phase du jeu, et chaque traqué c'est pareil, c'est une à son tour. Voilà. Mais ça donne aussi du rebondissement.
Pas une extension,
sans arrêt.
Ça
les cartes esquives et les cartes track. Oh non, je pense pas. Hein. Non.
Non. Ouais, je sais pas, ça me dit rien.
Alors moi j'ai joué avec les extensions, mais de ce que j'ai compris, de ce qu'il nous a expliqué le propriétaire du jeu, c'est que les extensions modifiaient certains lieux. Donc il y a des lieux dans la boîte de base, puis nous il nous a remplacé des lieux. Et on a joué avec des personnages aussi, donc chaque traqué avait un personnage avec un petit pouvoir particulier. Qu'est-ce que ça rajoutait aussi, je sais plus, mais non, je pense que les cartes track et les cartes esquive, c'est de base. Bon,
franchement, j'ai joué il y a super longtemps, donc j'ai joué l'année de sa sortie en fait au jeu, et une seule fois, donc je m'en rappelle plus très bien.
Ah ouais. Okay. Et je termine avec ça, qui est un point de règle, qui est machiavélique, et ça, il nous l'a donné aussi, mais je pensais même pas que c'était écrit vraiment tel quel dans la règle du jeu, mais si, là, j'ai vérifié à la fin de la partie. Et c'est qu'en cas de conflit sur l'ordre de résolution des cartes, donc les fameuses cartes actions, les cartes éphémères, là, qu'il y a pas vraiment d'ordre, hein, ouais. Chacun peut dégainer son truc. Si jamais on sait pas qui a dégainé laquelle en premier, eh ben, c'est écrit dans la règle, c'est la créature qui décide dans quel ordre les résoudre, parce qu'elle bénéficie de la connaissance du terrain.
Bah, bien sûr.
C'est logique en fait. Voilà. Et c'est vraiment écrit comme ça. C'est
une belle façon de l'expliquer en tout cas. Ouais,
c'est assez super. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ma partie. En tout cas, voilà, c'est bien pour jouer à nombreux et c'est pas trop léger. C'est pas voilà du party game, on se fend la poire et puis on joue un peu au hasard. Donc voilà. Bon, il faut qu'un joueur se dévoue pour être tout seul. Ça, c'est un peu, ça peut être un peu pénible, des fois. Bah, souvent, c'est celui qui connaît le mieux le jeu. Hein.
Ouais, en même temps, c'est un rôle intéressant, quand même.
Oui.
Un jeu pour le week-end proxy jeu.
Bah ouais, moi, je serais chaud d'y rejouer, parce que...
Ah oui, ouais, faut y rejouer. Et puis après, bon, bah, quand t'as fini une partie, bah, t'as envie d'en faire une autre pour essayer l'autre rôle, finalement. C'est un peu souvent ce qui se passe. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, donc un jeu, faut pas être un stressé de la vie, hein, parce que ce jeu te stresse encore plus. Voilà. C'est des belles émotions en tout cas dans ce jeu. Moi j'ai trouvé des belles sensations.
Ah bah, c'est vrai que si ça a réussi à te faire des cauchemars, ouais. c'est quand même.
Ouais.
C'est quelque chose quand même.
Ouais, ouais, c'est clair.
Notable.
Voilà. Sinon, sur les illustrations, moi, je suis pas trop attaché à ça. Je les ai pas trouvées dingues. Hein. Je sais pas si tu te rappelles un peu Cyrus. Moi, j'ai pas trouvé dingue. Mais il y a quand même l'illustration au dos de la carte esquive qui est le détecteur de mouvement de Alien 2. Donc ça, c'est quand même une petite Madeleine de Proust. Toi.
Ah, ça, c'est la classe, ça.
On est d'accord, Kurt. Ça.
Absolument.
Voilà. Donc il y a ça et ça, ça fait déjà tout, quoi. Voilà. Et toi, Cyrus? T'as joué à quoi dernièrement?
J'ai joué à quoi dernièrement? Ben, j'ai essayé Clash of Deck. En fait, je l'ai gagné à, vous savez, le Black Friday, l'événement caritatif qui est organisé tous les ans par Philibert pour l'association Accessi Jeux.
J'en ai reçu deux boîtes aussi.
De Clash of Deck?
Une ou deux. Ouais. Je sais plus. Oui, je crois que j'en ai reçu deux boîtes. Une boîte et une extension ou un truc comme ça. Oui,
ah ouais, non, bah attends, j'ai reçu le. J'avais participé, donc c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant.
L'année dernière.
Bah, 2024.
où il envoyait la totale aux 700 premiers inscrits.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'avais fait ça le matin. Voilà, j'ai dit, bon, bah, tiens, je vais prendre un ticket ou deux comme ça le matin. Bim, puis, ouais, je suis passé à autre chose. J'avais pas suivi le pourquoi du comment. Enfin, j'avais pas suivi la totale, quoi. Donc, je savais pas que j'allais recevoir forcément ça, tu vois. Bon, bref, je l'ai reçu. Puis, ça fait longtemps que c'est chez moi et que j'avais pas essayé. Et l'année dernière, on a fait, à Cannes, on a fait une interview de Leandro Proust, donc l'auteur du jeu et éditeur.
Oui.
C'est via sa boîte d'édition, Gram Édition, qu'il avait créé ce jeu-là. Et du coup, je dis, bon, bah, quand même, à un moment, faut que j'essaye. J'ai profité d'un moment libre avec mon fils pour essayer le jeu, parce qu'en fait, on est tous les deux, on aime beaucoup les jeux d'affrontement à deux. On fait pas mal de jeux de ce style-là. Je l'ai pas encore lancé sur du Magic, mais bon, moi, j'ai été biberonné à Magic quand j'étais jeune, quand c'est sorti en France, en tout cas. Et c'était un peu la volonté de Leandro Proust de dire, je vais faire un peu mon Magic, tu vois. Bon, c'est quand même pas du Magic, quoi. J'étais un peu déçu. Alors déjà, la règle. En fait, le truc, c'est que, la règle, franchement, déjà, c'était imbitable. Tu te dis, attends, c'est quand même la version 1.2 de la règle. C'est quand même, tu vois, la règle, elle est en ligne, en plus. Donc, c'est-à-dire, il la met à jour quand il veut, potentiellement. C'est imbitable. Le jeu a pas mal d'originalité. Et du coup, il est assez déstabilisant dans pas mal de choses. Ce qui fait que, la règle, il faut qu'elle soit hyper précise pour contrer un peu ce côté, contre-intuitif du jeu. Typiquement, ta main, donc t'as tes créatures dans ta main et tout, et t'as aussi ta base, si tu veux, qui va représenter tes points de vie, et elle va bouger dans ta main pour représenter le fait que tu perds des points de vie. Donc c'est quand même c'est plutôt intriguant, toi, c'est intéressant comme mécanique.
C'est original, oui.
Ouais, surtout qu'en plus, quand tu poses tes cartes, si tu poses des cartes qui sont d'un côté, entre guillemets, du mauvais côté de ta, donc c'est une tour en fait que t'as dans la main, une carte tour. Si elle est du mauvais côté, entre guillemets, en fait, tu perds un point de vie en même temps. Donc, tu vois, il y a des trucs un peu chelous comme ça dans le jeu, qui sont plutôt kiffants, en fait, dans le principe. Mais, sauf que, quand tu lis la règle, tu comprends rien, en fait, dans quel sens il faut bouger, de quel côté tu mets ta tour au début, et dans quel sens ça bouge. Je te jure, hein, franchement, je veux dire, le truc, mais, je sais pas combien de fois.
Ah oui.
Et en fait, à un moment, il te dit, tu la mets à gauche, mais en fait, ton adversaire, il te dit, tu la décales, genre aussi à, enfin, je me rappelle plus, tu veux, mais en fait, en gros, t'avais l'impression que chez ton adversaire, en fait, elle était déjà à toc du côté. Il te dit, tu la déplaces de ce côté-là. En fait, du coup, tu sais plus si c'est toi qui dois lui déplacer sa carte à gauche. C'est sa gauche ou c'est ta gauche? Tu sais pas.
Ok, oui, tout le monde a pas la même gauche. C'est
non, mais parce que pareil, c'est un jeu qui se joue face à face. Ils te disent, il y a la ligne du haut, la ligne du bas. Ah mais du coup la ligne du haut c'est ma ligne du haut, enfin en fait tu es censé jouer côte à côte. Alors, c'est peut-être ça d'ailleurs l'astuce du coup, c'est de la gauche, c'est bien ça, c'est bien la même gauche, mais quand tu joues à un jeu d'affrontement tu joues pas en côte à côte, c'est un jeu d'affrontement en plus, tu vois.
Ah non,
tu vois, il y a des trucs qui en fait qui ont été mal pensés je pense, et ça rend la lecture de la règle mais imbitable vraiment. En plus il y a X modes de jeu, donc t'as un mode solo, t'as un mode A4, t'as un mode A4 genre en équipe, un truc tournant, enfin je sais plus, t'as genre 4 ou 5 modes, du coup tout est à moitié mélangé dans la règle.
T'as joué à la boîte de base, t'as joué qu'à la première boîte?
Non, mais il y a qu'une règle pour tout de toute façon.
D'accord, ouais. Ok. Oui, donc ça, ok, ça change. C'est juste des équipes qui changent en fonction des boîtes.
Ouais, c'est les créatures en fait qui changent. C'est des créatures et des sorts. Bon, c'est.
Ok. Une règle pour les gouverner tous.
Ouais, c'est ça. Oui, vraiment tous les modes de jeu aussi. Je pense que c'était un peu sûrement la mauvaise idée. Il aurait peut-être fallu, tant pis, pas se faire l'économie de paragraphes et peut-être répéter d'un mode à l'autre. J'en sais rien. Déjà, ça aurait peut-être évacué des choses. Et puis mettre plus de schémas en fait, parce que tu vois ces trucs qui sont contre-intuitifs, il faut les expliciter avec des petits schémas qui te disent là ça se passe comme ci comme ça, des exemples. Encore une fois, c'est une règle qui est en ligne, c'est un PDF en plus, donc t'as pas à te limiter en nombre de pages ou je sais pas quoi. Sauf si vraiment tu veux que les gens ils te disent, tu te dis s'ils doivent imprimer, mais sorti de ça. Et malheureusement, il y a pas d'exemple. Donc du coup, t'as rien pour t'appuyer, pour te confirmer ou pas la façon dont t'es en train de jouer. Donc typiquement, toi, on a démarré une partie, on fait ça va pas, il y a un truc qui va pas là. Donc on a redémarré. Et là, bon, on a refait une partie complète. Mon fils, il a abandonné, tu vois. Franchement, pour qu'il abandonne un jeu, c'est, il faut y aller, quoi. Il est quand même beaucoup plus tolérant que moi. Là, je fais, bon, ok, ça a pas pris. ça a pas pris du tout. Ça marche pas.
Et ça dure longtemps, une partie?
Non. C'est, je sais pas, c'est 10 minutes peut-être, c'était la partie. Oui. Mais, tu vois, il a pas voulu réessayer derrière, quoi. Il a pas, la partie a été assez unilatérale. Donc on se dit bon bah ok, tu vois, peut-être on a fait un peu des mauvais choix, c'est un système de draft en fait au début pour choisir tes cartes, donc du coup peut-être qu'il avait fait des mauvais choix et du coup tu vois on peut refaire pour rééquilibrer un peu le truc. Quand tu connais pas le jeu, c'est normal, tu vois, tu connais pas les effets, tu sais pas trop leur implication.
Ouais, il y a des cartes qui combattent entre elles.
Ouais, voilà, t'as des trucs qui vont mieux fonctionner, t'as des trucs du style, t'as des tropes un peu à la magie, quoi, tout ce genre de jeu, tu sais, quand tu poses une créature, elle fait rien autour où elle, ah oui, elle arrive. Oui, oui. Donc, c'est qu'au tour d'après où elle fait quelque chose. Puis t'as un effet qui est, ta créature, quand elle arrive en jeu, elle peut tout de suite attaquer.
Oui.
Donc ça, c'est des effets qui sont assez forts. Donc toi, par exemple, ça, c'est un effet qu'il avait sous-estimé, donc il avait pas pris ou très peu de cartes qui font ça, donc ça m'a donné un avantage sur la partie typiquement. Voilà.
Et chacun construit son deck dans le même pool de cartes, c'est ça? Comment ça se passe?
Ouais, c'est ça. Okay. ouais.
Et tu draftes? Non,
ouais, t'as un système de draft en fait où c'est un truc en snake. À deux, alors c'est un peu, c'est un snake draft, c'est à dire que je vais prendre 4 cartes. Je vais en choisir une, je te passe les 3 autres, t'en prends 2 et je récupère la dernière. Tu vois. Bon, voilà, bref, c'est un système de draft. Ouais. Bon. Après, celui-là, un autre, à la limite, j'ai envie de dire, bon, tu peux adapter, tu pourrais bien, très bien dire, je prends 8 cartes, j'en sais rien, on les prend une par une. Bon, ça marcherait à peu près tout autant.
Hein. Oui, peu importe.
Ouais, voilà. Ce que je regrette, si tu veux, c'est qu'il y a. Il y a pas mal d'originalité quand même dans les mécaniques. Mmh. Donc il y a ce truc là avec les points de vie. Donc qui est en même temps selon ce que tu poses, c'est aussi le nombre de cartes que tu as en main, c'est aussi ta mana. C'est-à-dire qu'en fait plus tu as de cartes en main, plus tu as de quoi jouer des cartes, ce qui vient contrebalancer le fait que potentiellement tu as des cartes sur la table, tu vois, si tu as des cartes sur la table, tu en as pas beaucoup en main. Donc ça vient rééquilibrer le truc. Tes cartes, elles vont jamais dans le cimetière, en fait. Elles reviennent dans ta main quand elles sont mortes. Donc, tu joues avec très peu de cartes. Hein. Tu joues avec, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais une dizaine de cartes. Même pas. Et tu vas jouer toute la partie avec ça. Donc, t'as ça qui est intéressant. T'as aussi un truc qui est, alors, je sais pas si c'est vraiment intéressant ou si c'est gimmick, mais en fait, t'as deux lignes de combat. Et c'est toujours la carte qui est la plus éloignée du centre. Donc t'imagines, hein, y a une ligne, mais bon, y a la zone de conflit qui est au milieu, quoi. Donc c'est la carte la plus éloignée qui va attaquer la première. Donc en gros, c'est la dernière que t'as jouée qui attaque la première. Et du coup, ça crée des situations quand même. Encore un peu du mal à capter si c'est vraiment intéressant ou pas, tu vois, mais ça fait des situations un peu particulières. Ouais, j'ai fait qu'une partie et demie, hein, vous avez compris.
Oui, oui, puis avec une règle qui était peut-être un peu approximative, parce que t'es pas sûr de l'avoir bien compris, si on a bien compris.
Ouais, après, je sais pas, voilà, il y a des trucs, bon, la deuxième partie, elle tournait, tu vois, elle tournait. Maintenant, est-ce qu'effectivement j'ai mal interprété certains effets, ou je sais pas quoi, ça c'est pas impossible. Les effets, tiens, d'ailleurs, il y a en fait un pool d'effets qui existe dans le jeu. Je pense pas que du coup, d'ailleurs, que dans les extensions ça en rajoute, puisqu'elles sont écrites dans la règle. T'as un pool d'effets, donc tout est sous forme d'iconographie, ce qui fait que effectivement la prise en main aussi, elle est pas facile. Alors quand tu connais bien le jeu, c'est ce principe de l'icono versus le texte, quoi.
Il faut l'aide de jeu à côté, quoi.
Voilà. Quand tu connais bien le jeu, c'est vachement plus facile. Et quand tu connais pas le jeu et que tu démarres, c'est un cap à passer, quoi. Tout ça pour dire aussi que dans l'ensemble, ça a pas la dimension d'un jeu à la Magic, tu vois. Je pense que tu prends un deck d'extension, en réalité, ça va pas d'un coup tout chambouler, puisque tu restes toujours avec le même pool d'effets. T'as pas des nouveaux trucs, t'as pas des nouvelles combinaisons. Quand Magic sort une extension, c'est il y a des nouvelles synergies qui se créent, des nouveaux effets, etc. Même encore aujourd'hui, tu vois, ils arrivent encore à le faire. Hein. Peut-être pas sur toutes les extensions, mais.
Oui, puis avec des avec de la nouvelle terminologie à apprendre à chaque fois, etc. Ouais, voilà. Là, tu restes. J'ai l'impression que tu restes sur le même, tu restes sur les mêmes règles, donc t'es quand même cantonné à peu près à ce truc-là. Ouais, effectivement, ouais. Oui, ça va juste être.
Bon, les règles de Magic, c'est sûr, ça date 800 pages aujourd'hui. Mais... c'est sûr qu'on n'est pas dans, on n'est pas dans la même chose. Mais voilà, ça manque un peu. Moi, je trouve que ça manquait un peu d'explosivité, quoi. Il y a, et en fait, ce qui m'énerve, c'est que, bon, franchement, je sens qu'il y a des, il y a des idées cool dans le truc, mais je sais pas. J'ai l'impression que il y a rien qui veut que j'y aille, en fait, parce que je te dis, j'ai essayé les règles, ça marche pas. Ils sont sortis une application. Bah écoute, je l'ai lancé, j'ai voulu jouer et tout. En fait, jamais la partie elle s'est lancée parce qu'en fait, ça attend quelqu'un en face pour jouer. Bah j'ai attendu. Personne.
C'est le matchmaking là qui marche pas bien.
Bah ouais. Bon voilà. Bref, je vais aller malheureusement de déception en déception. Donc j'ai un truc qui s'appelle Clash of Deck, la saison 3 complète. Je n'espère pas de réessayer un jour, peut-être pour voir. Si j'arrive à passer au-delà de tout ça, faudrait que je sois sûr du système de règles avec cette tour là qui se déplace dans ma main.
Donc tu sens le potentiel, t'aurais envie mais ça veut pas en fait. C'est
ouais c'est ça. Et puis ouais comme je te dis un peu déçu par le pool d'effets qui paraît un peu trop limité peut-être. Je pense que ça aura pas l'ampleur dont j'aurais besoin quoi. Voilà pour que vraiment kiffer.
Ouais.
Clash of Deck. Alors moi, c'est pas du tout mon style de jeu, donc j'avais pas l'intention de le tester un jour. Mais voilà, ça me donne pas plus envie du coup.
Ouais, tu serais pas allé de toute façon. Ouais. Alors bah écoute, je vais retourner à Dice Throne là. J'ai acheté en solde les Dice Throne. J'avais beaucoup aimé Dice Throne. J'ai craqué en solde et j'ai acheté les Marvel. Là.
Il y en a certains que t'avais pas ?
Oui, il y en a plein que j'ai pas. Il y en a vraiment beaucoup. Pff, ouais. Non, là j'ai. Je les ai achetés parce que c'était en solde. C'était vraiment pas cher. Bon, bah, je vais vous laisser parce que du coup, il y a mon fils qui m'attend.
Ouais.
Allez.
Ouais, pour faire une partie Clash of Deck, il est revenu sur sa décision, tu vas voir. Allez.
Allez, bah, salut.
Merci à vous.
Salut les gars, jouez bien.